Ici Venise.
Ici Venise.
Le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour amoureux de la ville, critiques, inquiets, bienheureux, ironiques et auto-ironiques, mais aussi engagés.
Ici Venise, un podcast coup humain par Inonago, également au piano.
Et Philippe Gau, journaliste et aussi mon papa.
Eh oui.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs d'ici Venise, ben ritrovati, on est très content de reprendre le micro pour célébrer le 50e épisode d'ici Venise avec papa Philippe. Salut Philippe.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
On a eu le petit salut du chat en même temps qui a failli faire glisser le micro. Voilà, elle voulait participer à l'anniversaire. Alors, on est très content que vous soyez toujours à l'écoute de notre podcast, même si il est vrai, on a peut-être manqué un petit peu de régularité ces derniers mois, mais on est là.
Disons que quand on a déjà 49 sujets derrière soi, il faut de la motivation, soit pour trouver un nouveau sujet valable à traiter, soit pour traiter de nouveau un sujet parce qu'il y a des nécessités d'actualisation. Aujourd'hui, c'est un petit peu un mélange d'ailleurs.
Voilà, donc avant d'entrer dans le vif des sujets que nous allons traiter, je voulais simplement vous rappeler, maintenant j'ai pris mes bonnes habitudes en début de podcast, que vous pouvez soutenir ici Venise en nous offrant le café, en suivant le lien Buy Me a Coffee que vous trouvez dans la description du podcast. Vous savez, à cette période de l'année, le café a tendance à se transformer plutôt en glace.
Moi, j'ai rien contre l'affogato du café.
Ah, l'affogato, donc c'est carrément la boule de glace dans le café. Là, c'est la version très luxe. Et vous pouvez aussi suivre Venise, bien sûr suivre Venise, oui, suivre ici Venise, mais ça revient au même, sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, ici.venise. Voilà, alors ça commence, et on mettra le jingle des cloches. Ta-ta-ta. Quels sont les sujets d'ici Venise, 50e épisode?
Alors, le premier, ça sera le fameux ticket ou... plus officiellement contribution d'accès à Venise, qui entre en vigueur à partir du 25 avril et qui va être expérimenté donc cette année entre le 25 avril et le 14 juillet,
tu as raison. Tiens, c'est étonnant, c'est rigolo, ça correspond à une date qui a un sens pour les Français. En Italie, le 14 juillet, il ne se passe rien, enfin. Puisque la fête du Rédempteur à Venise, qui est la grosse fête vénitienne, ce sera le troisième samedi du mois de juillet, donc le 20 juillet. Et le 25, le premier jour de l'entrée en vigueur de la contribution d'accès, ce sera le 25 avril, qui correspond en Italie à la fête de la Libération. Et que si vous suivez bien le podcast ici Venise, vous savez que c'est aussi la fête de San Marco, donc le saint patron de Venise, qui a une sorte de double jour férié pour Venise et puis pour l'Italie.
Donc ça sera le gros de cet épisode, on va dire, puisque c'est quand même un événement qui va d'ailleurs probablement donner lieu à de nombreux reportages et
conférences de presse.
Et conférences de presse et péroraisons diverses et variées sur le thème de Venise, sa grandeur, sa gloire, son caractère unique dans le monde.
Et son avant-garde.
Son avant-gardisme absolu et en même temps sa décadence tragique.
Alors oui, pourquoi son avant-garde? Puisque le maire va s'est déjà vanté d'être le premier sur Terre à imaginer réguler les flux touristiques par un ticket. Alors justement, on voulait revenir sur cet enfumage, on a déjà eu l'occasion d'en parler.
Oui, on essaye de nous vendre cette contribution d'accès à Venise comme quelque chose d'absolument révolutionnaire. En effet, comme tu l'as dit, le maire s'est vanté dans les médias nationaux et internationaux, et il ne va pas manquer de le faire encore dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, du fait que c'était quelque chose d'unique au monde et absolument révolutionnaire, ce qui est un terme qui ne lui va pas très bien, mais enfin, c'est comme ça. Essayons de rappeler de quoi il s'agit, parce que... moi, le ticket pour Venise ou la contribution d'accès à Venise, ça me rappelle un peu l'histoire du rôti coupé au deux bouts. C'est-à-dire que c'est un truc dont on parle depuis des années. Pourquoi le rôti est coupé au deux bouts? On n'en sait rien, mais à partir du 25 avril, à Venise, le rôti sera coupé au deux bouts.
Je ne mange pas de rôti, je ne savais pas. Moi.
Bon, je vous la raconterai une autre fois, l'histoire complète du rôti coupé au deux bouts. Mais ça veut dire un truc qui est un peu... qui traîne depuis des années, qui change un petit peu, une sorte de serpent de mer, voilà, c'est une autre expression qu'on pourrait appliquer. Et finalement, on oublie ce que c'est, et encore plus, on en oublie le sens, si tant est qu'il y ait un sens. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une taxe de 5 euros par jour que devraient, j'emploie le conditionnel volontairement, que devraient payer les visiteurs à la journée de Venise. Pourquoi les visiteurs à la journée ? C'est parce que tous ceux qui séjournent pendant plusieurs jours à Venise, qui passent au moins une nuit dans les instituts hôteliers, dans les Airbnb, dans les campings, que sais-je encore,
de la commune de Venise,
tout cela sont exemptés parce qu'en fait, ils payent déjà une autre taxe.
Qui est la taxe de séjour.
Ils payent la taxe de séjour.
Vous entendez une barque, là.
Oui, voilà. Mais aussi, ils contribuent à l'économie locale, puisque évidemment, à la fois, ils payent l'hôtel, ils payent le Airbnb, ils payent le camping, ils se nourrissent sur place, etc. Donc, ils ne sont pas considérés comme des morgue Fuji. Ils ne sont pas considérés comme ces méchants touristes qu'on n'aime pas. Qui viennent de l'extérieur, qui font des jolies photos ou des selfies avec San Marco et qui repartent n'ayant pas dépensé un seul euro.
Tu dis « on », évidemment, il ne s'agit pas de nous ici, non, l'équipe d'ici Venise.
On aime tout le monde.
Mais c'est le « on » au sens de la... C'est vrai que dans le discours vénitien, c'est peut-être la pire catégorie sociale, quoi. Enfin, le paria de la société vénitienne, c'est le « mordi fuggi ».
Donc, la contribution d'accès à Venise, ça sera la taxe sur le mordi Fuji, en fait. Du moins, ça se veut être ça. C'est-à-dire que ça se veut non pas pénaliser ces touristes qui ne font que passer, qui ne contribuent pas à la vie et à l'économie locale, mais essayer au moins, c'est du moins la prétention d'origine du début du serpent de mer, réguler leur flux et faire en sorte que sur les jours qui sont les plus chargés de l'année touristique à Venise, sur ces jours-là, on va appliquer la contribution d'accès. On va peut-être même d'ailleurs, après la phase expérimentale, la renchérir et donc, par le portefeuille, dissuader le tourisme à la journée dans les périodes les plus chargées de l'année touristique.
Oui, donc ça c'est la théorie. Maintenant, il y a la pratique, c'est qui sont ces touristes mordi Fuji en majorité à Venise, d'ailleurs souvent le week-end, en général le dimanche, plus encore que le samedi. Eh bien, je vous donne la réponse, ce sont des Vénètes. Or, les Vénètes, c'est-à-dire les habitants de la région Vénétie, seront exemptés. C'est-à-dire qu'ils ne devront pas s'acquitter de cette taxe, qui est, alors on parle de 5 euros, qui est
par jour.
Si vous venez, donc si les Vénètes viennent, les Vénètes ou les autres catégories, si ces personnes viennent entre 8h30 et 16h, ce qui veut aussi dire que si ces personnes décident d'arriver pour l'heure de l'apéritif, qui est un petit peu le grand moment de la tradition vénitienne, donc ils arrivent à 17h, et bien avec un train depuis Padoue qui est parti à Padoue à 16h40, s'ils sont à 17h05 à Venise, et bien ils n'ont pas à s'acquitter de toute façon de cet axe. De toute façon, ils étaient exemptés. Mais, en fait, le vrai... Vas-y, tu voulais dire quelque chose.
Non, je voulais dire juste qu'il y avait taxe sur l'apéritif de 9h30, taxe sur l'apéritif de 11h, taxe sur l'apéritif de 13h, mais pas sur l'apéritif de 18, 19, 20, etc.
Ça vaut le coup quand même. Bon, la dernière taxe, vous pouvez la faire à ICI Venise en nous offrant le café, puisque c'est le même prix qu'une taxe de débarquement, c'est pas de notre faute, c'était déjà comme ça avant. Soyons plus sérieux. Il faut qu'on parle des exemptions, parce que, pas seulement les Vénètes, mais il y a une longue liste d'exemptions de personnes qui fréquentent Venise de manière quotidienne, mais qui ne l'habitent pas. En premier lieu, peut-être les travailleurs pendulaires. Je parle des travailleurs pendulaires qui n'habitent pas sur la commune de Venise, parce que la commune de Venise s'étend aussi, comme vous le savez, sur la terre ferme, lagune et terre ferme. Il y a beaucoup de gens qui habitent à Padoue, à Trévise, ou dans des communes proches de Venise, mais qui ne font pas partie de Venise.
Les campagnols.
Et voilà, ils sont appelés par les Vénitiens tellement vénétiano-centrés, les campagnols. La petite blague, c'est que pour un Vénitien, c'est tout à campagne, tout ce qui est hors dehors du pont de la Liberté, donc Paris et la campagne, c'est... Paris, pour un Vénitien, c'est la campagne. Enfin, c'est la petite blague.
Non, mais barbare.
Non, c'est campagnol. Bon, et barbare aussi. Alors, le vrai sujet, sans doute, c'est plutôt l'enregistrement. Plus que Venise, une taxe pour Venise, c'est l'enregistrement pour Venise. Et à partir du moment où on doit s'enregistrer, ça veut dire qu'on doit donner à Big Data beaucoup de données sur nous, sur nos vies.
À Big Brugnaro.
Voilà, notre grand frère Brugnaro.
Et
donc, un exemple même pour les habitants, les résidents de Venise. Donc on se dit, eux, de toute façon, ils sont exemptés aussi bien de la réservation que de la taxe. Mais en revanche, s'ils ont des invités, Eh bien, il faudra que nous téléchargions pour nos amis, pour nos hôtes, un QR code. Et c'est là où il va falloir donner notre adresse, le motif de la visite. Enfin, on ne sait pas encore bien, mais quoi qu'il en soit, il faut voir les formulaires qui seront à disposition, puisque tout n'est pas encore finalisé sur le site. Mais bon, c'est assez impressionnant. Et puis là, c'est presque simple comme exemple. Mais imaginez quelqu'un qui est un habitant de Ferrara, qui est hors de la région vénitienne, et devoir faire un examen de santé à l'hôpital de Venise, à l'hôpital civil, donc dans le centre historique. C'est tout à fait le droit d'un patient d'aller se faire soigner hors de sa région. Et c'est très souvent le cas en Italie. Très souvent, on fait des kilomètres pour aller dans le bon hôpital, pour voir le bon médecin de telle spécialité. Bon, lui aussi, il sera exempté. Il faudra qu'il fournisse la justification médicale pour être exempté. Donc, ça devient une espèce de grand millefeuille bureaucratique très, très complexe.
C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions, on le sait. Et face à cette idée de contribution d'accès à Venise, la commune, qui est le maître d'œuvre dans cette opération, a voulu donner absolument tout un tas d'exemptions pour, en gros, ne pas déranger la vie des Vénitiens, des gens qui fréquentent Venise, qui ont besoin de faire quelque chose à Venise, etc. Et que cela ne paye pas, parce que vraiment, la cible, encore une fois, c'est le touriste Mauro Fuji. Mais le résultat de cette bonne intention, de cette accumulation de bonnes intentions, c'est qu'il faut toujours justifier. Donc, soit vous payez la taxe, et là, vous donnez un nombre de données personnelles relativement limitées, votre nom, votre prénom, votre adresse email. Il faut aussi que vous ayez quand même un moyen de paiement électronique, parce qu'on ne peut pas payer la contribution d'accès en mettant 5 euros en rentrant à Venise à la gare ou à Piazza Le Roma, ce qui serait aussi une possibilité, mais non, cette possibilité-là n'est pas ouverte. On ne peut pas arriver comme si vous alliez dans un zoo et vous passez à la guichetterie, vous donnez 5 euros et vous rentrez pour aller voir les animaux. Non, cette possibilité-là n'est pas ouverte et il faut absolument passer par le système électronique.
Avoir un smartphone de nouveau.
Il faut avoir un smartphone, évidemment, pour pouvoir utiliser le flashcode. Enfin, bref. Mais si vous allez essayer de profiter des exemptions, c'est là qu'en effet tout se complique. Parce que j'ai voulu voir, moi par exemple, étant résident à Venise, si je reçois quelqu'un prochainement, et j'ai été sur le site, je n'avais pas l'intention d'aller au bout de la procédure, mais je voulais voir comment c'était. Et il faut que je justifie absolument, en fait, de qui je suis moi. Parce que moi, je suis à l'origine de l'exemption. Donc, je ne peux pas me contenter de prétendre que je suis résident à Venise. Il faut que je le prouve.
Ta carte d'identité.
Nom, prénom, numéro de la carte d'identité, adresse email, numéro de téléphone.
Ton adresse.
L'adresse, évidemment, à Venise. Ou le numéro de la carte d'identité sur laquelle sont reportés ces éléments-là, et notamment l'adresse à Venise. Et une fois que j'ai absolument tout rempli, a priori, il y a une procédure de vérification, c'est-à-dire la vérification que ces données sont réelles, ce qui n'est pas difficile parce que de ce côté-là, la commune est bien informatisée et elle connaît bien la liste de ses résidents. Et c'est seulement après que je peux ouvrir la porte, si je puis dire, à mes hôtes, c'est-à-dire inscrire mes hôtes pour finalement recevoir le QR code qui va leur permettre à eux de rentrer à Venise sans être inquiété.
Et je dirais là, c'est presque un cas de figure simple, parce que toi, tu es résident, mais il y a aussi à Venise beaucoup de gens, j'en connais, qui sont simplement domiciliés, c'est-à-dire qui habitent Venise. On a eu l'occasion de faire des podcasts sur ça, des gens qui habitent Venise, mais qui ne sont pas résidents. Ça veut dire que fiscalement, ils ont leur résidence ailleurs en Italie, mais ce sont des citoyens de Venise. Et eux aussi pourront faire bénéficier à leur hôte l'exemption.
Donc, en gros, c'est pour ça que je reviens sur mon histoire du rôti coupé au bout, ou du serpent de mer. Bon, c'est plutôt une anguille qui serait coupée en plein de tronçons. On n'y comprend plus rien. C'est-à-dire qu'au début, était l'idée d'un système de régulation des flux du tourisme de masse.
Journalier.
Cette idée se transforme en une taxe. Mais cette taxe se transforme en un truc que, en gros, personne ne paiera, sauf vraiment ceux absolument déterminé à la payer, parce que non seulement ils ne rentrent pas dans les exemptions, ils ont l'intention de venir à Venise et ils vont s'endetter à aller sur ce site pour obtenir le fameux QR code. Donc en gros, très peu de gens vont réellement la payer. On peut prendre des paris, on verra bien à la fin de l'expérimentation. Mais par contre, il y a un volume énorme d'acquisition de données. Toute la population se prête au jeu des exemptions.
Ça, c'est la question quand même, de voir s'il y aura une réponse ou un boycott.
Oui. Mais si petit à petit, selon les taxes, on sait ce que c'est, des fois il faut des années pour que ça rentre.
En Italie, pour qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait. La carotte, c'est la multa.
Aussi.
Et donc, ça veut dire un régime de contrôle. Et qui va contrôler ça? On ne le sait toujours pas. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de nouveau corps policier vénitien qui va naître pour contrôler le QR code?
Oui, il y a eu un concours pour attribuer à des sociétés privées.
Ça va être du sous-bapalte encore, de la sous-traitance.
Sous-bapalte, je ne sais pas, mais c'est déjà une concession de service public, puisque c'est un bandeau visant à confier à des personnels, des gardes privés, plus ou moins assermentés, la possibilité de faire le contrôle. Parce qu'évidemment, en général, quand vous rentrez dans Denise, personne ne vous demande rien, enfin, jusqu'à présent.
Oui, il faut
on
dire.
On ne vous demande pas vos papiers.
Globalement, même, j'ai pu constater par rapport à Mestre, il y a moins de militaires, il y a moins de policiers, ou alors ils sont en civil et je ne m'en rends pas compte, mais vraiment, pour le moment, hein.
En
c'est
tout
un
cas,
une ville ouverte.
Il y en a sans doute, il y en a qu'on voit, il y en a qu'on ne voit pas.
Il y a des périodes de l'année où il y en a plus, c'est vrai.
Mais en tout cas, il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire que le contrôle, il est peut-être visuel ou il est peut-être sur des fichiers. L'Italie a la réputation d'avoir d'assez bons services de renseignement, ce qui lui permet d'éviter ou de prévenir un certain nombre de désagréments, genre attentats ou terroristes ou autres, en tout cas ces dernières années. Touchons du bois, espérons que ce soit une réalité. Donc peut-être qu'il y a des contrôles que nous ne voyons pas. Mais physiquement, en tout cas, des gens qui vous font un contrôle d'identité, même au faciès, peut-être un peu, je n'ai pas le bon faciès, mais
si t'as le bon,
à l'entrée de Venise ou dans Venise, c'est vraiment exceptionnel. Il y a éventuellement les identifications faites par les policiers à l'occasion des manifestations diverses et variées. Ça, c'est un autre sujet dont on pourrait parler un autre jour, mais c'est à la marge, en tout cas ça n'est pas un contrôle systématique comme par exemple quand vous rentrez dans un pays et qu'on vous demande de montrer votre carte d'identité ou votre passeport. Et là, avec cette histoire de contribution d'accès, potentiellement, oui, un touriste français, suisse, canadien, québécois, que sais-je, qui vient à Venise pour la journée, théoriquement, il doit pouvoir justifier qu'il a payer la contribution, il doit pouvoir montrer son QR code, il faut donc que quelqu'un le lui demande, parce qu'il n'y a pas prévu, pour l'instant en tout cas, de borne auquel on présente le téléphone portable et qui vous ouvre un portillon.
Oui, là, on a parlé des tornelles, il y a eu un moment, ils en avaient commandé 4 ou 5, ils ont voulu faire le test, puis finalement, au bout de quelques jours, ils se sont retrouvés relégués au tronquet, on ne les a plus vus, et puis bon, voilà, ils ont dit non, on ne mettra pas de tourniquet. Après, on ne sait pas du tout comment les choses peuvent évoluer, hein. D'ici quelques mois, ils peuvent décider d'installer des tourniquets. Bref, bon, en tous les cas, voilà, peut-être le vrai sujet, donc on l'a dit, c'est l'enregistrement et c'est le tous fiché en fait. Mais j'allais dire, j'ai une idée là qui m'est venue peut-être un peu polémique, c'est que finalement ça dit aussi quelque chose de Venise. C'est qu'en fait ça dit aussi qu'indépendamment du tourisme de gens qui dorment dans Venise, dans la commune de Venise, même à Mestre, ben, en fait Venise est une ville qui est fréquentée par des millions de personnes, mais ces millions de personnes, c'est peut-être pas des touristes. C'est un peu mon idée, c'est qu'en fait, c'est des étudiants, la quasi-totalité, j'allais dire la grande majorité, mais la quasi-totalité des cuisiniers des restaurants de Venise, c'est des Bengalais, c'est des hommes du Pakistan et du Bangladesh, qui, pour la plupart, même s'il y en a qui habitent la Venise lagunaire, habitent à Mestre ou à Marghera, donc eux, ils habitent Venise, mais il y en a qui habitent plus loin encore. Eux, c'est des gens qui devront télécharger le QR code. Alors, a priori, une fois par an, pas tous les jours. C'est délirant de savoir que, encore une fois, on va afficher plein de... Alors, la question, quand même, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Alors, il y a cette fameuse Smart Control Room, on vous en a déjà parlé dans des épisodes d'Ici Venise, qui est un peu la salle de contrôle grand joujou de Brugnaro, mais qui est une sorte presque devenue un mythe, parce que les journalistes n'y accèdent pas.
Les élus non plus, d'ailleurs, enfin en tout cas ceux d'opposition qui ont posé un certain nombre de questions sur le sujet, notamment que deviennent les data et est-ce qu'on peut les obtenir, la réponse a été non.
Voilà, on a des images officielles avec des beaux écrans de contrôle, parce que tu as parlé des contrôles, des identifications lors des manifestations politiques ou sportives en Italie, mais il y a aussi énormément de caméras de surveillance à Venise.
Oui, alors ça, c'est des caméras.
Et déjà, alors la chose...
Qui aboutissent à la smart control.
D'après ce qu'on nous dit.
Si c'est branché.
Vous allez dire, mais les deux zozos, ils sont complètement complotistes. Non, mais parce que si vous voulez, c'est tellement... un moment aussi, quand il y a zéro transparence, ça pousse à ce genre d'élucubration.
Là où on ne va pas être forcément complotiste, c'est que, personnellement, mon hypothèse, c'est, pour répondre à la question, mais que deviennent toutes ces données, mon hypothèse, c'est qu'elles deviennent rien.
Oui.
Qu'est-ce qu'on en fait ? Rien.
C'est ça, c'est le meilleur des cas.
Oui, c'est le meilleur des cas. Mais justement, j'ai dit que je ne veux pas être complotiste. Donc, un complotiste dirait non, avec ça, on veut vous télécommander, vous téléguider, vous avez de la cuisine à la salle de bain, on sait. Non.
Tu achèteras telle marque d'amer, tu commanderas tel spritz parce que selon
selon ton algorithme, tu es spritz apérol ou spritz Campari ou select, ou voire même chinard.
On a cité toutes les marques pour pas
avoir. Quasiment révolutionnaire et marginal. Bon, non, et non, moi je suis pas spécialement complotiste, et donc je pense pas. Je pense fondamentalement que c'est plutôt des gadgets, des joujoux, des trucs de communication. On n'a pas dit d'ailleurs dans cet épisode, mais si vous allez dans les archives des 49 autres, vous le trouverez, qu'en réalité, la contribution d'accès qui va être instaurée à partir du 25 avril 2024 sous conditions et exemptions, en réalité, c'est une réponse la menace de l'UNESCO de retirer Venise de la liste du patrimoine mondial de l'humanité, ou plus précisément
de la placer dans
le patrimoine en danger. Et cette menace a couru pendant plusieurs années, et l'année dernière, elle a failli se concrétiser l'été dernier, parce que le comité scientifique a proposé l'année dernière aux États membres de l'UNESCO de prendre la décision de classer Venise dans le patrimoine mondial de l'humanité en danger, ce qui évidemment ne fait pas très bon effet sur la carte de visite. Et le projet de contribution d'accès était déjà dans les tiroirs de la municipalité depuis plusieurs années, mais il n'aboutissait pas. Il était en voie d'inaboutissement définitif.
Permanent.
Et on a ressorti, enfin la municipalité a ressorti des tiroirs ce projet l'année dernière pour impressionner les États membres de l'UNESCO et dévier le vote. Et ça a fonctionné, puisque les États membres n'ont pas suivi l'avis du conseil scientifique, et Venise n'a pas été placée dans la liste du patrimoine en danger, même si ça n'est pas définitif et que ça va sans doute revenir sous diverses formes dans les prochaines années. Voilà. Et donc en fait, si nous avons la contribution d'accès, c'est surtout pour répondre à cette demande politique de l'UNESCO, en tout cas au défi politique qui était posé à la municipalité par l'UNESCO. Donc les data sont une conséquence. La collecte des data, c'est une conséquence de la mise en place de la contribution d'accès, et c'est une conséquence de la volonté de mettre en place toutes ces exemptions. Voilà, c'est le rôti coupé au debout.
Oui, mais je dirais que c'est des conséquences, certes, mais c'est aussi une sorte de second enfumage. Parce que en bossant bien le dossier, la mairie de Venise a réussi donc à faire croire à l'UNESCO qu'il mettra en place cette contribution d'accès pour lutter contre le tourisme de masse journalier.
Et sauver Venise.
Et évidemment le gros topos narratif. Mais la réalité, c'est qu'en fait, et ça peut-être qu'ils ne l'ont pas vraiment vendu, parce qu'ils n'ont pas raconté que tout le monde serait exempté, mais que tout le monde devra réserver. La réalité, c'est que dans les faits, ce sera une réservation, une sorte de visa pour Venise pour tous, gratuit. Et ça, c'était probablement pas dans le dossier pour l'UNESCO. Voilà, donc comme souvent, en fait, selon la bonne tradition locale, il y a ce qu'on écrit pour les journaux internationaux, pour les organismes internationaux, et puis il y a la réalité des faits.
À quoi Voilà, donc le visa obligatoire pour Venise, un visa payant ou un visa surtout en échange de vos data. Et de vos data, que fera-t-on ? Ben moi je dis rien, mais peut-être autre chose finalement, allez savoir.
Un des jours où la taxe de débarquement, contribution d'accès, sera en vigueur, c'est le dimanche 28 avril. Or, le dimanche 28 avril, il est prévu, et on touche du bois parce qu'on espère que le pape Francesco va bien, il est prévu que le pape Francesco visite pour quelques heures seulement le matin Venise. Visite éclair. Donc lui, il devrait payer la taxe de débarquement, ou alors il devrait être exempté, on ne sait pas.
Il doit y avoir, à mon avis, pour un pape, il y a une exemption permanente.
Bon, est-ce qu'il y aura un QR code? Et il devrait visiter le...
C'est lui qui aura le numéro 1, en fait.
Voilà, c'est ça. Ce sera elle sera à la Biennale et ce sera le ticket de débarquement du pape. Et donc, il est prévu qu'il rende visite aux détenus de la Giudecca, où il y a, donc c'est l'île au sud de Venise, où il y a une prison pour femmes. Donc, le pape est... toujours attaché à la cause des prisonniers et des prisonnières. Ensuite, une rencontre avec les paroissiens de la Vénétie et une énorme messe célébrée sur la place Saint-Marc en plein air. Place Saint-Marc qui, encore à l'heure où vous parle, est en une sorte d'énormes travaux en voie d'inaccomplissement, d'inachèvement permanent. Donc alors là aussi, il y a l'idée de comment on va faire pour mettre la poussière sous le tapis, c'est-à-dire les énormes mazzénis, les problèmes d'eau. En même temps, il y a toujours cette espèce de magie aussi souvent avant la Biennale, parce que ça correspond aussi à la Biennale, mais de finir les travaux pile à l'heure à Venise, c'est incroyable, de mettre le coup de collier final juste avant que les festivités commencent. Donc ça aussi, on se demande comment ça va être possible, puisque je crois qu'on attend 10 000 fidèles.
Oui, je crois que c'est le quota qui a été fixé pour la place Saint-Marc, qui a un quota élevé, parce que pour les concerts ou autres de carnaval ces dernières années, oui, c'était de l'ordre de 3 500, je crois, la jauge maximale. Donc, ça va être une grosse jauge sur une place Saint-Marc en travaux.
Mais les voci, c'est-à-dire les rumeurs vénitiennes, disent qu'il ne va pas venir parce qu'à Pâques, il n'a pas fait la Via Crucis et donc il n'est pas forcément...
Il va beaucoup mieux.
Voilà.
Voilà, d'abord, il a célébré la messe. Et puis il est sorti du Vatican, il est allé dans un quartier de Rome rencontrer des jeunes pour la catéchèse. Enfin, non, il y a de bonnes. Moi, personnellement, j'avais le pronostic que c'était une venue du pape qui était annoncée mais qui n'aurait pas lieu pour des raisons de santé. Mais apparemment, le printemps lui fait du bien à lui aussi.
Bon,
et bien. Abemus Papa.
On verra si Abemus Papa mène.
Il mène. Alors voilà, ça pourrait être la fin de cet épisode, déjà bien chargé et très vénitien pour le coup, et à la fois Venise et le monde avec le pape. Mais malheureusement, on est obligé de faire un peu des communiqués pour terminer. Alors malheureusement, pourquoi? Parce que ça concerne les médias en Italie, la liberté d'expression
des journalistes,
et donc, par voie de conséquence, la situation politique. Alors, le premier, c'est sous la forme d'un communiqué que les journalistes de la RAI se sont exprimés ces derniers jours pour alerter les téléspectateurs et les auditeurs des radios et télévisions publiques sur le fait que, en gros, on avait changé, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on était en train de modifier le règlement qui s'applique pour les temps de parole des représentants politiques sur les médias audiovisuels publics. Et en gros, le temps de parole des représentants du gouvernement ne serait plus compté comme un temps de parole politique, et en particulier la participation des personnalités politiques dans les différentes émissions, talk shows, etc., ne serait plus prise en considération au titre de l'équilibre des temps de parole entre la majorité et les oppositions. Donc évidemment, de là à dire télé-Mélanie ou radio-Mélanie, il n'y a qu'un pas qui est facilement franchi. Et donc c'est quand même assez important pour que les journalistes de ces médias publics aient ressenti le besoin impérieux de publier sous forme de communiqué à l'intérieur de leurs journaux cette nouvelle situation qui est en train de se mettre en place.
Et autre inquiétude qui touche l'ensemble de la profession des journalistes italiens et pas seulement l'audiovisuel public, c'est un projet de loi de Fratelli d'Italia.
C'est un projet de loi qui est actuellement au Parlement, qui est pas un projet de loi de Fratelli d'Italia, quoique si, puisque évidemment la majorité parlementaire étant ce qu'elle est, l'inquiétude vient pas tant du projet de loi qui lui-même répond à une injonction de la Cour constitutionnelle demandant de libéraliser, enfin de dépoussiérer un peu le droit italien en matière de diffamation, et donc d'éviter que des journalistes puissent éventuellement être condamnés à de la prison pour avoir diffamé des personnalités diverses et variées. Et curieusement, ce projet de loi qui est donc là fait en principe pour répondre à la demande libérale de la Cour constitutionnelle se transforme ou est sur le point de se transformer en son contraire, c'est-à-dire que un sénateur de Fratelli d'Italia a déposé une dizaine d'amendements au projet de loi initial et qui vise à rendre possible, pour plein de motifs et dans plein de circonstances, des peines de prison ou de fortes amendes, ainsi que des interdictions professionnelles
pendant
plusieurs années contre des journalistes qui se seraient rendus coupables de diffamation. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, évidemment, ce serait...
Alors que la diffamation est déjà encadrée par la loi.
Ce serait dans des circonstances particulières, on va dire graves, c'est-à-dire où le journaliste aurait volontairement diffamé, enfin, bref, mais en général, un journaliste ne passe pas son temps à volontairement diffamer. Parfois, il peut diffamer parce qu'il peut affirmer un fait qui n'est pas avéré, qui sera démontré plus tard comme faux, et donc il sera peut-être condamné pour diffamation. C'est déjà possible actuellement avec la loi italienne, mais c'est vraiment exceptionnel qu'un journaliste diffame de manière volontaire, délibérée, et d'ailleurs s'expose à des poursuites qui d'ores et déjà existent. Mais donc, ce projet de loi durcirait, enfin, si les amendements étaient adoptés, durcirait énormément la situation, et en effet, comme tu l'as dit, inciterait les journalistes de tous les médias, et pas seulement audiovisuels, à faire très attention à toutes leurs affirmations, en particulier quand ça touche des personnalités publiques, politiques, du monde des affaires, etc. Et donc, on peut pas dire franchement que les médias italiens sont en général extrêmement aventureux, courageux, polémiques. C'est plutôt
le contraire.
C'est plutôt un peu le contraire. Mais alors là, on aurait un ensemble de la communication professionnelle qui serait fortement incité, avec les peines d'amende, de prison ou d'interdiction professionnelle, à éviter tout écart qui pourrait rentrer dans le cadre de... Alors, probablement, ces amendements ne seront pas adoptés ou pas en l'état, mais ils indiquent bien une intention, une direction, car quand même, Fratelli d'Italia, pour qui ne le saurait pas, c'est le parti de Giorgia Meloni, qui est la présidente du Conseil italien, et la principale force politique, Fratelli d'Italia, la principale force politique, tant parlementaire qu'électorale. On risque d'ailleurs de le voir bientôt en nouvelles élections européennes. Donc il y a un peu un parfum d'urbanisation qui est en train de se mettre en place, et malgré le caractère assez lisse de la diplomatie et de la politique internationale italienne, qui essaie de ne pas faire trop de vagues à l'extérieur et donc de démentir un peu les inquiétudes sur un gouvernement post-fasciste, à l'intérieur, c'est un petit peu autrement que les choses se présentent. Évidemment, on est en période électorale, préélectorale, puisque là, pour le coup, c'est pareil dans tous les pays de l'Union européenne. Les élections européennes sont en préparation et il y a beaucoup de compétition entre les forces politiques, y compris à l'intérieur de la majorité du gouvernement, parce que par exemple, les deux autres partis de la coalition se sont immédiatement exprimés contre ces amendements. Donc c'est pour ça que probablement ils ne seront pas adoptés, puisque évidemment les oppositions s'y opposent de manière tout à fait évidente. Mais encore une fois, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est l'intention, parce que le fait de porter l'intention devant le Parlement, ça montre dans quelle direction on veut aller.
Voilà. Bon, et eh bien, et nous, à Ici Venise, pas d'autocensure, 100% indépendant et...
Ouh, faisons attention à la diffamation.
Et zéro budget. Et si vous voulez participer au contribut d'accès à Ici Venise, n'hésitez pas à soutenir avec Buy Me a Coffee ou Buy Me a Gelato. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. On vous souhaite un bon printemps en espérant vous retrouver très bientôt pour le 51e épisode. Merci.
Ouh là là.
Philippe.
Des promesses. On voit que c'est le printemps.
Toujours des promesses.
Au revoir.